Alors, c'est les deux derniers cours et celui-là. Ce que j'ai essayé de faire avec vous, c'est de démontrer à quel point le genre de choses que les anthropologues rencontrent sur le terrain, des gens qui parlent, des mots, des actions, demandent une connaissance de ce que j'ai appelé le reverse engineering, l'analyse de ce qui sous-tend ce que nous voyons, car nous ne pouvons pas le comprendre simplement comme fait superficiel, et que ce reverse engineering, que cette ingénierie à l'envers, est éclairée par des connaissances psychologiques que, d'une certaine manière, nous ne pouvons pas nous en passer. D'ailleurs, si nous oublions ce que la psychologie nous a appris, ce que nous faisons, c'est que nous importons une psychologie naïve, non examinée, de toutes les façons. Alors, ce dont je voudrais parler aujourd'hui est un phénomène qui est normalement considéré comme un phénomène linguistique, les métaphores, mais qui entre dans un cadre plus large que l'on pourrait appeler l'analogie. Et même l'analogie et les métaphores peuvent être considérées comme un aspect caractéristique de la pensée humaine, sa capacité pour ce qui a été appelé des métarreprésentations, c'est-à-dire des représentations qui utilisent d'autres représentations pour être formées. D'une certaine manière, ce que je disais la semaine dernière quand je parlais des travaux que Susan Carey, moi-même et Rita Astuti avaient fait sur la parenté, peut être considéré comme une démonstration que les déclarations que les gens font à propos de la parenté sont des métarreprésentations, des représentations du deuxième degré. Il y a des tropes linguistiques très familières qui inévitablement impliquent des métarreprésentations. L'ironie, par exemple, implique que la personne qui comprend une remarque comme étant ironique comprend et son sens littéral ou superficiel, mais qu'elle le comprend en relation à un autre niveau non ironique. Même une citation en disant « telle personne m'a dit que » implique déjà une superposition de niveau. Mais peut-être l'aspect le plus intéressant et le plus présent en anthropologie est l'analogie et la métaphore. L'analogie n'est pas nécessairement linguistique, mais elle est certainement très intéressante dans une réflexion anthropologique large. Par exemple, ceux de vous qui connaissent le livre de Lévi-Strauss, La pensée sauvage, auront vu à quel point il fait de la capacité que nous avons de penser d'un certain domaine en termes d'un autre comme une capacité clé de l'humanité et une capacité qui est un moteur pour l'innovation et le développement, un développement tel que par exemple l'invention de la domestication des plantes et des animaux. C'est d'ailleurs cela qu'il appelle la pensée sauvage ou la science du concret. La science du concret étant une science qui examine un domaine en utilisant un autre. Et de même manière, des psychologues tels que Annette Carmiloff-Smith, dont j'ai parlé dans d'autres cours, ou Carey et Spelka font de la capacité chez l'enfant d'associer différents domaines, de les voir l'un en termes d'un autre, comme un des stades clés du dépassement de la compréhension naïve de base. Donc, pour ces auteurs, venant autant de l'anthropologie que de la psychologie, cette capacité de mettre en relation des domaines qui ne le sont pas en eux-mêmes est un aspect probablement des plus caractéristiques de l'être humain. Et d'ailleurs, cela est très étroitement lié au phénomène très général de l'imagination que Paul Harris, qui parlait au séminaire la semaine dernière, a bien décrit et qu'il a démontré est très présent chez les enfants très très jeunes dans leur jeu, bien avant qu'ils puissent parler. D'ailleurs, il y a une longue histoire de voir dans l'analogie comme un des mécanismes qui mène à la aux découvertes nouvelles, aux inventions nouvelles dans l'histoire de la science. Par exemple, le biologiste Harvey, qui est en général considéré comme responsable de la découverte de la circulation du sang, explique qu'il a brusquement compris comment la circulation du sang pouvait avoir lieu après une visite en Hollande où il a vu les canaux d'irrigation et la même manière dont ces canaux lui rappelaient ce qu'il avait vu dans le système des artères et des veines humaines. Donc, il a compris le système, quoique toutes les données étaient déjà là depuis des siècles. Il a compris comment marchait la circulation du sang en se disant si les veines et les artères étaient des canaux comme ceux que j'ai vus en Hollande, donc ça doit être comme ça, donc il a vérifié, et ainsi de suite. De même manière, Rutherford explique qu'il a compris la constitution des atomes en pensant aux atomes comme s'ils étaient le système solaire. Donc, il y a il y a énormément de cas dans l'histoire de la science où on peut voir comment la pensée analogique donne des nouvelles idées. D'ailleurs, même c'est quelque chose qui est connu dans les méthodes du management, une méthode bien connue qui s'appelle le brainstorming, consiste à demander à des gens dans une entreprise d'imaginer leur entreprise comme, par exemple, si c'était une bicyclette. C'est quelque chose pris n'importe quoi, entièrement au hasard, mais simplement l'effort de penser à quelque chose de familier comme si c'était quelque chose d'autre mène souvent à des nouvelles intuitions, à des nouvelles découvertes. Un nombre d'expériences bien connu d'ailleurs en psychologie, une très connue consistait à expliquer aux gens qu'un nouveau rayon avait été découvert qui permettait de détruire les structures, les tumeurs du cerveau. Et alors on expliquait que le seul problème, la raison pourquoi on ne pouvait pas utiliser ce rayon normalement, c'est qu'il détruisait tous les tissus en chemin, quand ils allaient vers la tumeur. Et alors on demandait ensuite à un groupe de gens, est-ce que vous pouvez penser à un moyen par lequel on pourrait résoudre le problème et qu'on pourrait vraiment utiliser ce rayon ? En général, les gens n'ont pas beaucoup de réponses. Et puis après, on leur dit, une quinzaine de minutes après, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un général qui assiégeait une ville. il avait assez de troupes pour prendre la ville. Malheureusement, tous les ponts étaient piégés avec des charges explosives qui réagissaient si une armée importante passait sur ces ponts. Donc il ne savait pas quoi faire parce qu'il ne pouvait pas entrer dans la ville. Mais il a eu brusquement l'idée de diviser son armée en tout petits groupes qui sont tous entrés par les différentes portes. Et comme ça, il n'y a pas eu d'explosion aux portes de la ville. Puis on dit, ben voilà, oui, maintenant, est-ce que vous rappelez l'histoire à propos du rayon? Les gens disent oui. Et il dit, est-ce que vous avez trouvé la solution? Énormément de gens disent, oui, nous avons trouvé la solution, on divise le rayon pour qu'il converge sur l'endroit de la tumeur. Donc, on peut démontrer que les gens résoudent les problèmes en utilisant une analogie qui, à première vue, n'a pas l'air d'avoir grand-chose à faire avec le premier problème. Et beaucoup de gens ont suggéré que les avances scientifiques et technologiques de l'histoire de l'humanité ont souvent eu lieu grâce à l'utilisation de la pensée analogique. Il faut faire attention aussi parce que quelquefois, cette pensée analogique est aussi un gêne au progrès scientifique. Par exemple, l'alchimie foisonnait d'analogies. On voyait les produits chimiques en relation avec les astres, en relation avec les humeurs du corps, etc., etc., etc. Le discours alchimique qui naturellement ne menait à rien était absolument un fouillis incroyable d'analogies qui, on peut bien le voir, ont été pendant très longtemps un obstacle au progrès scientifique. Donc, si dans certains cas l'analogie fait avancer les choses, dans d'autres, elle le retarde. Le problème des questions très générales de l'analogie et de la créativité, c'est que c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal en tant qu'anthropologue à observer sur le terrain. Par contre, une des choses qu'on observe continuellement est l'utilisation des métaphores, une trope linguistique qui est en grande partie, pas uniquement, basée sur l'analogie. Alors, une des questions qui se pose pour les anthropologues, et d'ailleurs non seulement pour les anthropologues, mais aussi pour les gens qui vivent dans les sociétés que nous étudions, c'est comment est-ce que l'on peut reconnaître une proposition comme étant métaphorique ou littérale. Très très souvent, les anthropologues ont été accusés de prendre comme littérales des propositions que les gens qu'ils étudient considèrent comme métaphoriques et vice-versa. Avant d'essayer peut-être de répondre à cette question assez générale de la pratique anthropologique, nous pouvons nous poser une question, comment est-ce que nous, ou les êtres humains en général, reconnaissent le métaphorique en tant que tel. Et il y a un certain nombre d'études qui ont été faites qui montrent que la première idée qu'on avait, c'est que on reconnaît une proposition comme étant métaphorique par le fait qu'elle ne peut pas être, qu'elle n'a pas de sens si elle est prise littéralement. Donc, si je dis que le Collège de France est un lieu est une forêt où les savoirs foisonnent. Comme vous savez que, vous n'avez pas vu d'arbres et de plantes pousser ici, vous vous dites, bon, donc, je ne peux pas comprendre cela littéralement, donc ça doit être compris métaphoriquement. D'une manière assez intéressante, et je reviendrai sur ce point, une série d'études psychologiques assez complexes faites par une psychologue américaine dont je vais reparler, Deirdre Gentner. A démontré que cela est peu probable parce que les gens ne prennent pas plus longtemps à comprendre une proposition métaphorique qu'une proposition littérale. Vous voyez, s'ils avaient d'abord à se dire « Tiens, ça n'a pas de sens, donc ça doit être littéral », ça leur mettrait plus longtemps à comprendre une proposition métaphorique, une proposition littérale. Et ce qu'elle suggère, il y a même des données neurologiques qui suggèrent cela, c'est que nous traitons les propositions que nous entendons, les propositions dans le langage, continuellement, comme s'il y avait une gamme de possibilités selon lesquelles on pourrait les comprendre. Donc notre compréhension est beaucoup plus complexe qu'on a tendance à le penser, que nous entretenons toute une série d'hypothèses sur ce qu'on nous dit pourrait dire, et nous choisissons parmi celles-là. Donc nous traitons simultanément une proposition comme celle que je vous ai donnée comme étant peut-être littérale ou métaphorique. Nous avons les deux en parallèle et nous choisissons celle qui paraît la plus pertinente des deux. Je reviendrai sur ce point car il est assez important généralement, qui montre à quel point la complexité de la nature du discours et du discours humain et donc la complexité de la nature du discours que l'anthropologue a interprété sur le terrain. Mais il y a une autre raison pour laquelle les anthropologues ne peuvent pas ignorer l'importance des métaphores. Et pour cela, je vais d'abord me tourner vers les travaux d'un linguiste américain et d'un psychologue américain qui ont d'abord écrit un livre qui en anglais s'appelle Metaphors That We Live By, mais qui est traduit en français par, j'ai vu qu'il est traduit en français, les métaphores au quotidien. Les deux auteurs, attendez, je vérifie bien que c'est le titre. En français. Oui, ces deux auteurs sont Lakoff et Johnson, qui ont écrit toute une série d'autres livres et d'autres écrits depuis, mais qui proposent à peu près la même chose. Et les métaphores au quotidien. Et ce qu'il souligne, c'est l'omniprésence du métaphorique dans le discours humain. Il souligne l'omniprésence du métaphorique dans le discours humain parce qu'ils entendent par métaphorique quelque chose que souvent nous ne comprenons, nous n'appellerions pas métaphorique, mais ce qu'ils appellent les métaphores conventionnelles, d'autres auteurs l'appellent les métaphores morts, qui sont enfouies dans tout langage humain. Vous voyez, je viens d'en utiliser un en disant enfoui, j'en utilisais un autre en disant utilisé, dès que nous disons quelque chose, nous ne pouvons dire que très peu sans utiliser un métaphore qui est devenu conventionnel, qui est devenu enfoui dans notre langage. Par exemple, quand je dis maintenant je vais me tourner vers un autre sujet, tourner est une formule métaphorique. Donc, il souligne que le métaphorique est partout. Le métaphorique est partout, et non seulement il est partout, nous retrouvons les mêmes caractéristiques dans ce métaphorique conventionnel dans toutes les langues. D'abord, que la source des métaphores est une série de petits schémas très fondamentaux et extrêmement simples, souvent liés à notre corps, au mouvement, des représentations comme contenant et contenu. Par exemple, quand je dis je vais me tourner vers un autre sujet, nous utilisons comme source le mouvement du corps pour parler d'autre chose. Et si vous examinez quoi que ce soit, vous verrez que tout est formé autour de ces petits... que toutes les idées complexes, toutes les idées abstraites ne peuvent être exprimées que en termes, en utilisant un foisonnement de métaphores qui viennent d'un nombre réduit de petites sources, la plupart venant d'ailleurs des mouvements de notre corps ou de sensations extrêmement simples. D'ailleurs, cela nous donne même une suggestion de l'évolution d'un langage complexe, parce que dès que nous examinons le langage, nous voyons que on peut imaginer un développement de complexité qui vient de l'utilisation de métaphores qui deviennent tellement conventionnelles qu'on ne se rend même plus compte qu'ils sont métaphoriques. Écoutez tous les métaphores qui sont dans ce que je dis, et vous les verrez. Vous les verrez. Oui, voilà. On ne peut y échapper. D'autres, vous voyez, continuellement, c'est comme ça que notre langage est formé. Cela est non seulement ça, Johnson et Lakoff soulignent à quel point les métaphores se relient pour former des réseaux. Quand nous utilisons je viens de le faire, les métaphores se relient pour former un réseau qui va dans toutes les directions. Vous voyez, j'utilise les métaphores que je viens d'utiliser sont tous liés ensemble. De souligner cet aspect fondamentalement métaphorique du langage humain leur permet d'aller plus loin, peut-être trop loin, et de suggérer que nous ne pouvons pas penser en dehors des métaphores. Et que non seulement ça, ce fait donne une coloration à notre pensée, que notre pensée est d'une certaine manière enfermée à l'intérieur des systèmes métaphoriques que nous avons à utiliser, que nous n'avons pas le choix que de les utiliser. Une autre implication, beaucoup moins claire, dans les travaux de Johnson Lakoff. Comme je vous disais, ils ont écrit toute une série de livres et d'articles, et leur position change de temps en temps, mais enfin, elle revient en général à peu près à celle du livre de l'origine. Et que, étant donné que ces systèmes métaphoriques utilisent ces mêmes schémas extrêmement simples dans toutes les cultures, le schéma du mouvement du corps, de contenu, contenant, etc., la forme que donnent ces métaphores à notre langage et à notre pensée est quasiment universelle. Nous avons tous des corps, nous bougeons tous, etc. Et en effet, les métaphores utilisées dans les différentes cultures se ressemblent énormément. Il n'y a pas de langage nous retrouvons les mêmes métaphores dans des langues et dans des cultures totalement différentes. Et là, nous voyons certains anthropologues commencer à s'inquiéter parce que une des implications du travail de Johnson et de Lakoff est qu'il irait vers une espèce d'universalisme qui nierait l'importance de des différentes cultures et des variations culturelles, qui se manifeste dans une discussion assez intéressante qui a eu lieu entre Lakoff et une anthropologue américaine, Naomi Quinn. Deuxième, Naomi Quinn, qui a critiqué la position de Lakoff et de Johnson encore plus, en prenant l'exemple d'une étude qu'elle avait faite sur la manière dont les gens aux États-Unis parlaient du mariage, et cette étude avait pour but de voir quelle était la représentation culturelle du mariage américain. Et alors, sa critique principale de Lakoff est de dire, bon, on voit dans ce que les gens m'ont dit, qu'on parle du mariage comme un voyage. Les gens parlent de leur divorce en disant, ben, nous avons chacun pris notre chemin. Le chemin a été long et dur, mais finalement, nous sommes retrouvés dans une pente douce où tout allait bien ou tout allait mal, je sais pas ce que vous voulez, et que donc il y a tout un système de métaphores qui implique que le mariage est un voyage. Mais ce que dit Quinn est que on ne peut pas dire que cela forme la manière dont les Américains pensent au mariage, parce que d'ailleurs elle voit que toute une série d'autres métaphores sont utilisées à d'autres moments, que donc l'idée du mariage est indépendante du discours à propos du mariage, parce qu'on peut utiliser toute une série d'autres métaphores pour parler des mariages. Et notre mariage était un petit univers clos, politique comme une prison à l'intérieur de laquelle nous heurtions les uns les autres, etc. On peut dire le même genre de choses en utilisant d'autres métaphores. Que donc elle dit que la représentation culturelle du mariage américain est indépendante des métaphores qu'on utilise et que donc Lakoff se trompe. Alors toute cette conversation a énormément d'importance pour l'anthropologie parce que si vous examinez les ethnographies, vous verrez que l'idée qui est à la base des théories de Johnson et Lakoff se retrouve non examinée dans énormément de travaux anthropologiques qui assument que les gens se représentent ce dont il est question de la manière dont les métaphores expriment ces sujets. Par exemple, je pourrais vous donner l'exemple d'une étude par une anthropologue américaine, Emily Martin, qui a fait une étude de la manière dont les médecins américains parlaient des femmes enceintes dans un hôpital et de la naissance. Et alors, elle note, c'est très typique des études anthropologiques, elle note que les médecins parlent de ces femmes en termes de production, comme si la maternité était une usine de travail, d'investissement, etc. Donc, non seulement comme si c'était un processus industriel, mais un processus industriel capitaliste. Et donc, elle déduit de ça qu'ils se représentent, ils ont pris des représentations capitalistes et industrielles et qu'ils traitent les femmes dans leur maternité comme si c'était des ouvriers, comme si c'était des investissements, etc. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a lu extrêmement facilement et extrêmement rapidement. Elle a déduit des choses simplement du langage de ces médecins, et elle a déduit qu'ils pensaient aux femmes ou à la production des bébés, etc. en ces termes. Je ne sais pas si elle a raison ou elle n'a pas raison, mais ça paraît fort peu probable, car elle oublie deux choses. D'abord, elle oublie que les médecins n'ont pas le choix que d'utiliser des métaphores pour parler de ce dont ils parlent, car c'est absolument caractéristique du discours humain. Et aussi, elle a pensé, elle présume que la manière dont on parle de quelque chose représente ou affecte la manière dont le sujet est considéré dans la pensée. Alors c'est ce que pensait Lakoff, mais c'est ce qui est tout de même assez peu probable, parce que nous avons quelques études qui essayent de démontrer à quel point les métaphores donnent une couleur à le sujet en question. C'est très difficile de les étudier. Comme toutes les études, il y a toutes les études qui ont suivi, qui ont en anthropologie et en psychologie et en linguistique, qui essayent de voir à quel point les formes linguistiques affectent la pensée. Et le problème est qu'il est très difficile de connaître la pensée des gens, à moins qu'on ait un IRM sous la main, et encore, ça ne nous dit pas grand-chose sur ce genre de sujet, qu'en passant à travers le langage. Une caricature qui est souvent donnée de ce genre de raisonnement. Et vous voyez, les Esquimaux considèrent la neige comme quelque chose de totalement différent que nous. La preuve, c'est qu'ils ont toute une série de mots pour parler de la neige que nous n'avons pas. Question, comment est-ce que vous savez qu'ils pensent à la neige d'une manière très différente de nous? Ben voyons, ils ont toute une série de mots complètement différents des nôtres. Donc, c'est en fin de compte une simple tautologie, il n'y a absolument aucun moyen de déduire, d'aller vers la pensée par ce genre de manière. Par contre, il y a eu une série d'études qui ont été faites en faisant des comparaisons entre différentes cultures. D'ailleurs, je vais d'abord commencer pas avec des comparaisons entre différentes cultures, mais une série d'expériences faites par une Américaine, Boriditsky, la première, c'est qu'elle a remarqué que en anglais, ça serait également vrai en français, on peut parler du temps comme soi-même bougeant dans le temps, avançant dans le temps. Alors toutes ces histoires, c'est maintenant derrière moi, pour dire qu'on a avancé, on les a dépassées. Donc, on peut utiliser des phrases comme qui impliquent que le temps, c'est que c'est le temps qui bouge et que soi-même on reste immobile. On peut dire par exemple, ce qui vient vers nous est un désastre terrible. Alors là, l'implication, c'est que le temps bouge et qu'on reste au même moment. Et alors, ce qu'elle a pu montrer, c'est que quand on embrouille les gens entre ces deux systèmes, ils prennent beaucoup plus longtemps à comprendre ce qu'on leur dit. Ce qui suggère que la pensée suit à un certain point la métaphore de mouvement pour le temps, et également, elle a fait des études en comparaison des gens qui parlent des langues chinoises et européennes, et les langues européennes ont tendance à représentent en général le temps d'une manière linéaire, horizontale. Devant soi, derrière soi, le passé derrière soi, l'avenir devant soi, etc. Tandis que dans les langues chinoises, on peut faire ça, mais aussi on peut représenter le temps sur un axe vertical. Et alors, ce qu'elle a pu montrer, c'est que les gens qui parlent des langues où on peut parler du temps sur un axe vertical des problèmes qui demandent ce genre d'association plus rapidement que ceux qui ne parlent qu'une langue qui ne parle du temps uniquement sur un axe horizontal. Ce qui montre qu'il y a une certaine influence sur la pensée, mais l'influence est extrêmement faible. Donc, à l'encontre de ce que pensent Lakoff et Johnson, à l'encontre de ce que vous verrez dans énormément d'études anthropologiques, il semblerait paraître que l'utilisation de certaines métaphores a très 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 peu d'influence sur la manière dont les choses sont représentées. Ce qui est dommage pour les anthropologues, parce que ce serait tellement facile si c'était comme ça. parce que les métaphores, nous les rencontrons, nous ne pouvons pas les échapper. Nous ne pouvons pas les échapper. Si on pouvait lire la pensée des gens à travers leurs métaphores, le travail ethnographique serait beaucoup plus simple, ce qui est sûrement pour ça que cette supposition sous-tend tellement de travaux anthropologiques. Bon, alors maintenant, jusqu'à maintenant, je n'ai parlé que de ce qu'on pourrait appeler des métaphores conventionnelles, des métaphores morts, comme certains auteurs les ont appelées. Mais maintenant, je voudrais me tourner vers la question des métaphores nouveaux, des métaphores vivants, c'est-à-dire des métaphores qui sont créées et que l'on remarque, si vous voulez, comme étant des métaphores. Et il paraît assez important de distinguer les métaphores vivants des métaphores morts, car encore à l'encontre de ce que suggère Lakoff et Johnson, toute une série d'études psychologiques montrent que la manière dont les métaphores existent dans la pensée est très très différente dans ces deux cas. Oui, il y a une question qui a souvent été posée, qui est-ce que dans le cas des métaphores morts, des métaphores conventionnelles, est-ce que dans ces cas-là, les propositions qui les contiennent sont perçues comme métaphoriques? Oui, je vous ai fait remarquer dans ce cours la présence de métaphores dans un discours que normalement vous n'y aurez pas fait attention. Et alors, il serait assez facile de penser que donc ils sont complètement morts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre ce genre de propositions métaphoriques et des propositions littérales. Qu'il n'y a pas de processing, de mécanisme qui nous dit il faut traiter ce genre de langage différemment d'une proposition littérale. Et en fin de compte, ça semble bien être le cas, que le genre de questionnement qui a lieu avec un nouveau métaphore par exemple, je dis que le Collège de France est une véritable forêt, que ce genre de... Il est évident que l'on traite une telle remarque comme étant métaphorique, mais c'est-à-dire que le processus psychologique est complètement différent du processus psychologique qui a lieu quand vous m'entendez dire « Bon, maintenant, nous sommes un peu pressés, nous allons sauter... nous allons sauter deux ou trois sujets. » Ce genre, quand on dit sauter, le fait de sauter n'a aucune importance pour vous. Et en fin de compte, ça a l'air d'être le cas. Mais la question avec les métaphores vivants, c'est ou plutôt la question que soulève cette suggestion qui a l'air en fin de compte bien fondée, que la réalité psychologique des métaphores morts et des métaphores vivants est très différente. La difficulté est qu'il est évident que les métaphores vivants deviennent morts, et quelquefois les métaphores morts sont on pourrait dire, réanimé. C'est-à-dire que je peux faire, comme je l'ai fait avec vous, souligner l'existence d'un métaphore dans le langage commun, un métaphore qui est tellement utilisé qu'il est entendu comme une proposition littérale, mais vous faire remarquer l'aspect métaphorique pour alors dire quelque chose d'autre. J'ai écouté le discours de M. Sarkozy il y a quelques jours et il jouait là-dessus énormément. C'est très typique de la rhétorique politique qu'il disait « Nous disons que la France a toujours existé, que la France a toujours été ici, mais, non, c'est pas un bon exemple. Enfin, écoutez-le, vous verrez que brusquement, il utilise des phrases que l'on pourrait considérer des phrases absolument normales, et brusquement, il souligne l'existence du métaphore pour le réanimer et mettre en avant le fait que nous avons un phénomène métaphorique qui lui permet ensuite d'enchaîner avec et de dire quelque chose de nouveau. Donc, d'avoir une trop grande division entre métaphore mort et métaphore vivant ne nous permet pas de traiter ce que Dietrich Genter, la psychologue dont je vous parlais, a appelé la carrière des métaphores. Donc les métaphores passent, des nouveaux métaphores deviennent tellement courants qu'ils meurent et d'autres deviennent vivants. Et ce genre de processus me paraît particulièrement intéressant parce qu'il souligne la complexité, la multitude de niveaux qu'il y a dans tout langage normal, qui est en fin de compte ce que l'anthropologue a sur son terrain, que non seulement il lui faut interpréter à quel niveau telle ou telle proposition doit être comprise, mais il doit aussi être à l'écoute du fait que ces propositions peuvent changer de niveau, peuvent être interprétées différemment de moment en moment. Cela est très très caractéristique. Et cela me paraît particulièrement intéressant pour les questions de phénomènes que nous pourrions appeler religieux. Très très souvent, les discussions à propos des métaphores en anthropologie concernent des phénomènes quasi religieux. Le mot religieux, on ne peut pas donner de définition au mot religieux. Bon, alors, c'est simplement un mot vague pour indiquer un genre de phénomène. Mais, par exemple, une immense discussion en anthropologie à propos de propositions qui ont été rapportées par des anthropologues, par exemple, d'Amazonie, où les gens vous disent « nous sommes des araras », une espèce d'oiseau. Il y a une littérature immense sur précisément ce sujet. Et cette littérature essaye de se décider si ces propositions doivent être comprises littéralement, dans quel cas elles sont vraiment bizarres, parce que les gens ne sont pas en général des oiseaux. Comment est-ce que ces gens peuvent penser qu'ils sont des oiseaux? Ou est-ce qu'ils doivent être pris comme étant métaphoriques? Dans un article extrêmement intéressant par un anthropologue américain, de nouveau, excusez-moi, il y en a beaucoup, Terry Turner, nous trouvons qu'il reprend cette question en mettant en la traitant dans le contexte des rituels d'initiation des jeunes gens. Et ce qu'il montre, c'est que dans ces rituels d'initiation, il faut suivre le rituel comme un développement. Que comme dans très très souvent dans les phénomènes religieux, on commence dans le rituel par un espèce de parallélisme analogique entre les jeunes gens et ces oiseaux. On dit, vous voyez, devenez comme les araras qui sont beaux, je ne sais plus trop quoi, ils sont forts, ils n'ont pas de maladie, ils volent très bien. Donc les parties initiales du rituel sont marquées par un analogisme et des métaphores très très clairement marquées comme étant ainsi. Mais au fur et à mesure du rituel, il commence à s'habiller avec des plumes d'arara. Finalement, au moment le plus dramatique du rituel, il commence à danser dans une danse où il semble être des araras. Il est fort probable qu'il se pense juste à ce moment dans cette danse comme étant des araras. Donc il n'y a pas un moment où on peut dire la relation jeune homme araras est métaphorique ou non métaphorique. Nous avons lieu, ce que nous avons devant nous, c'est une transformation du métaphorique mort au métaphorique vivant, au littéral et dans l'autre sens. Et cela me paraît très très caractéristique des phénomènes religieux. Par exemple, chez les Malgaches que j'ai étudié, un groupe de personnes qui s'appelle les Afimanieri, il y a une comparaison continue entre le corps humain et les arbres. La croissance et la vie du corps humain est comparée à la croissance des arbres, en particulier au fait que le cœur de l'arbre durcit et plus foncé, vous savez, le cœur du tronc, et cela ressemble à l'os dans les jambes ou les bras. Cela a donc une parallèle avec le durcissement du corps du bébé, de l'enfant, et aussi la parallèle est continue avec le fait que après la mort, les gens sont simplement des objets durs et droits. Donc nous avons là une espèce de parallélisme métaphorique très élaboré, mais les bois durcis, et en particulier cette partie dure et centrale de l'arbre, est utilisée pour construire les maisons. Donc la métaphore commence à être changée dans le sens que c'est comme si la maison devenait une personne qui représentait le corps du mari et de la femme qui sont associés avec cette maison. Et finalement, dans beaucoup de rituels, on s'adresse à la maison comme si c'était le corps des personnes qui ont créé. On leur parle, on leur demande des bénédictions, on demande des bénédictions au poteau central, par exemple, de la maison, comme si ce poteau central était l'homme qui a créé la maison. Donc il y a une espèce de transition, de la même manière que celle que je vous ai décrite dans les rituels dans les rituels amazoniens, entre des stades où la relation arbre-personne est métaphorique, à un moment où elle est littérale, et c'est ce glissement qui est particulièrement ce qui est intéressant d'étudier pour nous. D'une certaine manière, ce genre de phénomène est particulier à ce qu'on pourrait appeler des phénomènes religieux. C'est un peu dommage qu'il a été le sujet de la plupart des discussions sur les métaphores en anthropologie. Mais par contre, ce que j'espère que je vous ai montré, c'est que quand on le considère en termes beaucoup plus général de ce que nous savons sur les métaphores, il est éclairé, et non seulement il est éclairé, mais même la nature des phénomènes religieux le sont au même moment. Voilà. Et alors, la semaine prochaine, mémoire, et alors, nous aurons un séminaire qui sera à moitié séminaire-discussion dans une demi-heure.